Salut Jérôme.
Salut Jean-Philippe.
Ça va?
Ouais, ça va bien.
On refait un deuxième épisode Open Data, tu te rappelles? On avait déjà reçu Samuel Guetta.
Bah oui, je me souviens, c'était hyper intéressant. Il parlait de Waze notamment et de mobilité. Il disait que c'était hyper compliqué d'aller chercher ces datas-là qui existaient.
Exactement. Et ben, on essaie de creuser avec lui ce sujet.
Et ben, t'es canon.
C'est parti. Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils sous leurs aspects sociétaux, culturels, sociaux, éthiques et pourquoi pas politiques. Cette semaine, comme il y a quelques semaines, on reparle Open Data avec Samuel Guetta. Vous êtes bien sûr Cause Commune, la radio des possibles. Merci à Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous donner cet espace de liberté et d'échange. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web causecommune.fm et sur son app mobile, également sur la bande FM 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à nous mettre des petits likes parce que ça manipule les algorithmes et c'est cool de manipuler un algorithme.
Vous écoutez Parlez-moi d'IA.
Alors, Open Data, on en a déjà parlé dans un premier épisode, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. On a parlé d'où vient ce terme d'Open Data, quelle est cette notion d'Open Data avec Samuel Guetta, qui est en fait l'auteur d'un livre à référence désormais sur le sujet qui s'appelle « Les données de la démocratie ». Bonjour Samuel Guetta.
Bonjour.
Prêt pour un deuxième épisode de Parlez-moi d'IA sur l'Open Data ?
Très prêt.
Très prêt. Alors, on en parlait après le premier épisode avec Jérôme. Peut-être qu'une des questions que nos auditeurs peuvent se poser, c'est de se dire, bon, c'est bien sympa leur truc là d'open data, et ça nourrit les IA, et ça nourrit plein de services et tout ça. Mais moi, citoyen lambda, finalement, comment j'ai accès à cette open data? Où est-ce qu'on peut trouver de l'open data? Où est-ce qu'on peut aller regarder de l'open data aujourd'hui sur le web, Samuel Guetta?
Ah, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par ça. Lors du dernier épisode, tout simplement, vous allez sur data.gouv.fr.
Hein, ouais, c'est quoi?
C'est le portail national des données ouvertes.
Ouais.
Donc, c'est un .gouv.fr, mais il n'y a pas que des données du gouvernement,
ouais,
et des ministères. Il y a aussi des données des collectivités territoriales. Et c'est un fait assez unique pour un portail gouvernemental, c'est que aussi n'importe qui peut poster des données sur data.gouv.fr. J'en ai posté en mon nom. Data Activist, la coopérative que j'ai cofondé, on en publie.
D'accord, tout le monde peut venir poser ses données open data.
Partager des données, il y a des gens qui ont publié des données assez passionnantes. Par exemple, un jour, quelqu'un a trouvé sur un site du ministère d'Intérieur un fichier PDF avec le nombre de flashs sur chacun des radars.
Ah oui.
Il l'a extrait du fichier PDF, il a fait un jeu de données qui est lisible par les machines. Il l'a publié sur data.gouv.fr. Une semaine après, on avait une carte, parce que alors la localisation était pas bonne, mais une carte localisée avec tous les radars les plus rentables, ce qui, je vous invite à, pourra mettre les liens, je crois.
Ouais,
c'est assez intéressant à regarder. Ça vous dit un peu quelles sont les vaches à lait.
Dans
les radars.
Donc vous le dites bien dans votre livre, c'est un sujet qui est un peu technique mais qui est quand même passionnant, notamment pour la démocratie. Mais c'est un sujet, un édifice, l'open data que vous décrivez comme étant un petit peu sur un socle. Vous décrivez l'open data comme étant un peu la tour de Pise de notre édifice démocratique. Comment vous expliquez cette image de la tour de Pise?
Alors, la tour de Pise, c'est ce bel édifice qui attire les visiteurs du monde entier, et on en a parlé lors du dernier épisode. La France, elle est en tête des classements internationaux en matière d'open data. Et donc, les observateurs du monde entier viennent regarder ce qui se fait en France, et ils ont plein de bonnes raisons de le faire, parce qu'il y a un écosystème qui est extrêmement dynamique, il se passe quand même plein de choses, on est un des pays les plus avancés dans le domaine. Mais la tour de Pise, c'est un édifice qui est connu aussi parce qu'il penche. Et
oui.
Pourquoi il penche, ce qu'on sait moins, c'est parce que ses fondations sont instables. Et en France, ces fondations, c'est celle du droit d'accès aux documents administratifs, qui est un droit qui est mal connu, alors que pourtant, ça vient de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 15 dont on a parlé la dernière fois. Ça vient aussi
de la loi de 78.
Ça a été, voilà, la loi de 1978, mais ça a été aussi reconnu comme un droit à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel. Donc on touche là quand même à des libertés fondamentales, et c'est une liberté fondamentale qui est on peut le dire assez bafouée en fait.
Ouais.
Pas y aller par quatre chemins.
Il y a pas d'obligation en fait vraiment, c'est-à-dire qu'on du coup
Il y a une obligation, et en fait, si vous allez au tribunal administratif, comme l'a fait Alexandre Lechner, un journaliste qui a obtenu la publication des indices de position sociale, donc c'est la composition sociale établissement par établissement, il a fait 3 ans de procédure, il est allé au tribunal administratif, il a obtenu gain de cause, et le ministère de l'Éducation nationale, qui refusait de publier ces données-là, les a publiées, et en fait, le ministère refusait de montrer la réalité de la ségrégation scolaire, et en fait, ça a permis une réforme qui est en cours de la carte scolaire, donc c'est pas rien en termes d'impact.
Mais il faut aller chercher quoi, il faut aller chercher en justice la donnée, il faut aller, cette obligation n'est pas automatique.
On arrive à obtenir des choses en utilisant le droit d'accès aux documents administratifs, mais c'est, on va dire, plutôt l'exception que la règle.
Ouais.
On le voit sur madada.fr, on a 20% des demandes qui aboutissent à la publication du document. Donc on est encore très loin.
Madada, je l'ai pas dit dans le premier épisode, vous l'aviez déjà cité. Madada, il y a aussi une chronique Madada dans une émission de Cause Commune qui s'appelle Libre à vous, où on fait la chronique en fait de ce qui est demandé via Madada sur cette antenne. Donc je voulais quand même le préciser. C'est là où il y a quand même pas mal de difficultés, et vous l'évoquez dans votre livre, les difficultés, finalement, il y a beaucoup de friction entre l'administration et les demandeurs de données. Pour vous, c'est quoi le plus difficile, en fait? C'est quoi qui coince? Et comment vous envisagez l'analyse de ce qui coince dans la publication des datas?
Alors, c'est sur le volet juste droit d'accès aux documents administratifs, ce qui coince déjà de base, c'est que quand on envoie une demande, on n'est pas sûr qu'elle arrive.
Ouais.
Au bon endroit. C'est-à-dire que les administrations n'ont pas désigné assez de Prada. Donc les Prada, c'est pas la personne la mieux sapée de l'administration, c'est la personne responsable de l'accès aux documents administratifs. Et cette personne-là, elle n'a pas été nommée partout. Et elle n'est pas reconnue partout. Et les mails n'arrivent pas. Souvent, c'est notre premier problème.
Ouais.
Et c'est le problème que rencontrent tous les demandeurs. Ensuite, dans l'administration, les circuits pour traiter les demandes, ils n'ont pas été mis en place véritablement. Ça fait 40 ans que la CADA, qui est une autorité administrative indépendante, dit qu'il faut faire preuve de pédagogie, que les administrations regrettent que les administrations ne sont pas saisies de leurs obligations. Bon, je pense qu'il faut qu'ils arrêtent le bullshit. On a un droit fondamental qui est malmené, et c'est un problème démocratique. Puis l'autre problème, c'est qu'en fait, le droit d'accès, c'est au cœur du code des relations entre le public et l'administration. Ça fait l'objet d'un des livres, le livre 3. Ça devrait faire partie un peu des routines des relations entre le public et l'administration. Or, beaucoup de demandes, elles sont traitées par le cabinet du maire, le maire, l'élu, et ça demande en fait des validations, au point qu'en fait, dès que les données sont un peu sensibles, c'est plutôt, il faut avoir un visa plutôt que la liberté de circulation, quoi. Donc on est dans un système où les routines organisationnelles ne sont pas faites pour que les documents circulent, et donc on le voit aussi du côté de l'open data.
Justement, c'est pas révélateur d'une culture, ça, quand même, d'une culture et d'un rapport au pouvoir entre le politique et l'administration, entre la centralisation et la décentralisation. C'est quand même quelque chose d'assez significatif, ce que vous décrivez là comme comportement.
Ouais, en fait, c'est aussi pour ça que le livre s'appelle « Les données de la démocratie », c'est qu'en fait, en posant ces questions de données, on pose des questions du modèle démocratique qu'on veut.
Ouais.
C'est-à-dire, est-ce que c'est la démocratie, est-ce que c'est juste on vote tous les 5 à 7 ans et les élus font ce qu'ils veulent pendant ce temps-là, et ils en ont bien le droit, c'est leur mandat, ou est-ce que on permet aux citoyens, en ayant accès aux données dans leur plus grand niveau de précision, de refaire les calculs, de contester des décisions, de proposer de nouvelles interprétations, et est-ce qu'on permet en fait que la société civile s'exprime, et que cette expression de la société civile, à certains moments, elle est utile. Le principe de ce livre, j'en parle beaucoup dans la conclusion, c'est de ramener à un vieux principe qui est que le pouvoir a besoin des contre-pouvoirs, hein, c'est Montesquieu, c'est check and balances dans la constitution américaine, c'est qu'en fait, l'un a besoin de l'autre pour que le pouvoir C'est aussi le principe de la contre-démocratie chez Rosanvallon. C'est l'idée que la démocratie a besoin de, des contre-pouvoirs pour bien fonctionner.
Et en même temps, si je fais un peu l'avocat du diable, malgré tout, est-ce que ces frictions, elles viennent pas justement du fait qu'il y avait aussi un mythe autour de l'open data qui était de dire que, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre, que c'était aussi potentiellement des machines à scandale. C'est-à-dire qu'on attendait les livraisons d'un jeu de données open data comme s'il allait pouvoir révéler des choses cachées. Et du coup, bah, des deux côtés de la barrière, il y a des gens qui tremblent, quoi. Il y a des gens qui tremblent parce qu'ils veulent pas publier quelque chose qui va pouvoir les mettre sur la sellette. Et de l'autre côté, des gens qui tremblent parce que ils ont pas la donnée qu'ils espèrent par rapport à ce qu'ils veulent en faire, à ce qu'ils veulent révéler d'une situation. Il n'y a pas eu un espèce de blocage aussi par cet aspect de mutuel de gens qui se neutralisent finalement.
Ouais, bah après l'expérience des collectivités, des administrations qui ont ouvert des données, généralement, ça n'a pas amené à des scandales.
Alors
ça vient du fait aussi que parfois les données sont un peu vidées de leur substance avant d'être publiées, c'est des choses qui arrivent. Mais ça vient aussi du fait que parfois il n'y a pas matière à scandale. Alors je cite quand même un certain nombre de cas où les données ouvertes ont rebattu les cartes. Alors l'exemple le plus évident que j'ai, c'est l'affaire Fillon.
Ouais. L'affaire
Fillon, parce qu'en fait il n'y a pas eu une taupe au sein de la campagne de François Fillon. Hein. C'est en fait les journalistes du Canard Enchaîné, ils ont découvert ça dans les données. Alors c'est plus précisément dans un document, dans la déclaration à la haute autorité de la transparence de la vie publique de François Fillon.
Tout simplement.
Il a déclaré que sa femme, Pénélope Fillon, travaillait pour la revue des Deux Mondes. Les journalistes du Canard Enchaîné ont vu qu'elle n'avait jamais signé le moindre papier dans la revue des Deux Mondes. Et du coup, ils ont commencé à creuser autour de Pénélope Fillon. Et c'est là où ils ont vu tout ce qu'on sait. Ça, c'est l'exemple le plus emblématique. Mais j'en ai pas 12 000, hein, des exemples comme ça, en fait. Hein. Il y en a, ça occupe quelques pages. Et en fait, ce que nous disent souvent les data journalistes qui travaillent sur les données ouvertes, c'est que ce sont des très bonnes données pour faire du journalisme de contexte, expliquer un peu une situation. Ça peut permettre de détecter des signaux faibles et qu'après, on revient à des méthodes d'enquête plus classiques. Mais c'est très rare les cas où on trouve quelque chose de vraiment scandaleux dans les données. Alors j'ai eu le cas, j'en cite une fois, il y a eu un hackathon sur les données des douanes. Ils se sont rendus compte que les douanes avaient commandé des IMC Catcher, qui était un dispositif pour siphonner les données des téléphones portables.
Oui. C'est
un dispositif illégal. Ça a fait son petit scandale. Mais il y en a pas 12 000 hein, des cas comme ça.
Ouais. Mais ça fait quand même un petit peu trembler, j'ai l'impression, côté administration. Et d'ailleurs, dans cette démarche côté administration, il y a beaucoup de cette démarche. Elle repose beaucoup sur des gens qui sont très impliqués, sur des militants. Vous le relevez aussi comme un des points un peu critiques du développement de l'open data, parce que finalement, ça s'est pas diffusé comme une culture d'administration. L'open data, il y a quand même un grand manque d'acculturation globale de l'administration sur ces questions-là.
Ouais, ça repose sur peu de gens, sur un écosystème de peu de gens qui sont très investis, très convaincus qu'en fait c'est la continuité des principes du service public, de l'égalité d'accès, la continuité, et donc en fait c'est ouvrir des données, c'est la continuité du métier d'agence, et que c'est aussi valorisant pour leur travail, c'est aussi valorisant pour la démocratie. Donc on a un peu ces personnes-là, qui vont défendre et qui vont faire que ces projets existent. Ces personnes-là, elles sont quand même rarement soutenues par leur hiérarchie. Elles sont assez mal comprises. Et puis, en fait, plus largement, quand on regarde les projets d'ouverture des données dans les administrations, ça pose la question de la culture des données dans l'administration.
Ouais.
Mais c'est aussi un des gros leviers. C'est-à-dire que l'ouverture des données, c'est une obligation légale, avec la loi Lemaire. Donc, c'est un projet quand même d'acculturation aux données, de transformation publique. Donc, ça aussi... Ça travaille l'administration, ça l'amène à travailler différemment et à se poser des questions sur les données qui se poseraient pas par ailleurs autrement. Donc c'est aussi utile. Mais en attendant, ça repose sur peu de gens,
ouais.
Des gens qui sont peu soutenus, qui font ça un peu en marge de leur métier. Et c'est aussi pour ça que sur la couverture du livre, il y a une abeille.
Ah, mais expliquez-nous l'abeille de la couverture.
Voilà, donc l'abeille, c'est de dire que, bah, comme les abeilles pour la nature, on a les données ouvertes, elles sont essentielles à la démocratie, un peu comme les abeilles, elles vont aussi polliniser différents espaces, Et en fait, le fait d'ouvrir va créer quelque chose de beaucoup plus grand dans l'écosystème.
Ouais.
Et c'est cette idée aussi d'écosystème. Mais les abeilles, on le sait bien, sont fragiles.
Ouais.
C'est essentiel, mais c'est aussi extrêmement fragile et ça repose sur peu de choses et que derrière, en fait, c'est aussi l'édifice démocratique qui est lui-même très très fragile et fragilisé.
Bon, vous l'avez dit, donc c'est fragile, c'est ça peut être difficile, mais il y a quand même eu effectivement, on va dire des éléments des aspects qui ont bien fonctionné, des transformations de l'administration. Qu'est-ce que vous citeriez comme éléments justement dans les lois ou dans les évolutions réglementaires qui ont fait quand même que voilà, désormais il y a un cap, il y a un cran qui a été posé. Par exemple, je sais pas si on parle du service public de la donnée.
Ouais, donc le service public de la donnée, il est posé par la loi pour une république numérique.
Ouais. C'est quoi exactement ?
Alors, le service public de la donnée, c'est l'idée que certaines données sont vraiment essentielles aux acteurs économiques ou même à l'État, à l'administration, qui vont relier, c'est un peu souvent des données un peu qu'on appelle essentielles ou des données pivots qui vont permettre de relier différentes bases de données entre elles ou qui sont des données de référence. Et ces données-là, elles doivent être publiées, on doit garantir un niveau de publication, de disponibilité, on doit s'assurer qu'elles sont, qu'on va écouter aussi les besoins des usagers. Donc ça va être des données comme par exemple la base sirène sur les entreprises,
ouais.
Ça va être les bases d'adresses, ça peut être des identifiants, certains identifiants uniques. Donc ça, c'est un principe qui a été posé par la loi pour une république numérique. Ce qui est dommage, c'est que ça aurait pu être étendu à d'autres données,
ouais.
Et étendu à des données qui sont pas forcément des données un peu pivots, qui vont relier des bases de données entre elles, mais il y a un certain nombre de données qui sont essentielles à la vie démocratique. Donc on aurait pu, actuellement, il y en a une dizaine,
ouais.
On pourrait en avoir 50, 100. Et ce qui est dommage aussi, c'est qu'on n'est pas encore allé assez loin dans le fait d'écouter les usagers, leurs besoins. Mais ça, c'est général dans l'open data, c'est-à-dire
ouais.
Que il y a un problème que j'avais constaté dans ma thèse au départ. Je fais une thèse en sociologie sur ces sujets-là, qui est que les usagers sont rarement présents dans les projets d'ouverture de données, et on le constate encore maintenant, quoi. C'est-à-dire que quand vous regardez dans les commentaires, par exemple sur data.gouv.fr, il y a beaucoup de commentaires qui sont sans réponse. Le cas le plus emblématique, c'était pendant la crise sanitaire, donc qui fait l'objet d'un chapitre dans le livre,
ouais.
Pendant la pandémie, où il y avait chaque jour plein de questions qui étaient posées à l'administration qui ne répondaient pas. Donc en fait, il s'est passé même un truc, c'est que sur data.gouv.fr, les usagers se répondaient entre eux et se partageaient des informations sur les jeux de données. Donc c'était une sorte d'entraide hyper intéressante.
Bon. Mais écoutez, du coup, on a un peu posé ces éléments critiques de l'open data. On a aussi trouvé des choses qui ont fait avancer la situation. Je vous propose qu'on évoque juste après la pause musicale toutes vos préconisations, parce que le livre comprend de nombreuses préconisations pour faire évoluer ce modèle. On va écouter ensemble. Alors, c'est une petite référence à vos stickers, parce que vous avez une activité donc de conseil avec votre entreprise, votre coopérative qui s'appelle Data Activity. Et vous diffusez des petits stickers pour faire la promotion de l'open data. Et sur l'un de ces stickers, il y a simplement ces mots-là, donnez-moi. Et ben, on va écouter tout simplement cette chanson.
Je suis ravi.
L'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi, je chante sous vos fenêtres chaque jour.
Merci Enrico, vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré au grand tour d'horizon sur l'open data avec Samuel Guetta, l'auteur de Open Data, les données de la démocratie, le livre de référence sur le sujet. Samuel, on a fait un grand tour d'horizon et votre livre dans sa dernière partie il croit en l'open data, il croit dans les données de la démocratie, et il fait de nombreuses préconisations pour que on continue sur ce mouvement-là, parce que bon, on l'a pas dit, mais enfin si, vous l'avez dit, mais c'est fragile et qu'il faut continuer à essayer de pousser ce mouvement. Qu'est-ce que sont vos grandes préconisations finalement pour continuer ce mouvement open data en France, en Europe, dans le monde? Comment vous voyez les choses?
Oui, donc la troisième partie du livre, en fait, elle fait des propositions et des pistes d'action. Elle montre aussi des stratégies alternatives. Hein. C'est-à-dire que pour les acteurs de la société civile, quand il n'y a pas de données en open data, il y a besoin d'un certain nombre de stratégies pour se prendre en main,
finalement.
Ouais.
C'est ça, ouais.
Mais je fais aussi un certain nombre de préconisations à travers trois grands chantiers. Donc le premier chantier, c'est d'obtenir les données qui manquent. Mmh. Le deuxième chantier, c'est d'améliorer la qualité et la fiabilité des données ouvertes.
Ouais.
Et le troisième chantier, c'est de développer la culture des données. Alors peut-être je vais revenir sur chacun de ces chantiers
si où
il y a
bien.
Des pistes d'action. Alors il y en a plusieurs, hein, donc je vais pas toutes les traiter.
Non.
Sur le fait d'obtenir les données qui manquent, notamment, je pense qu'il y a peut-être, on parle de la CADA. La CADA, elle est pas très connue. Hein, elle fonctionne pas toujours très bien, même si elle a été aussi un allié sur la transparence à certains moments. Peut-être de se rapprocher de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui est beaucoup plus connue à la fois du public et des élus.
C'est celle qui a permis notamment l'affaire Fillon, avec voilà. les déclarations d'intérêt, oui.
Et l'affaire Thévenoud, oui. Qui a beaucoup joué. Il y a eu quand même, elle a quand même transmis 74 affaires à la justice en 7 ans. Donc c'est un acteur qui est bien reconnu, notamment par Transparency International France, qui en fait c'est un acteur aussi qui n'hésite pas à signaler quand il y a des problèmes dans le droit qui existe. Et je pense qu'il y a un certain nombre d'évolutions du droit à faire sur le droit d'accès aux documents administratifs. Il y a notamment l'idée de créer un référé communication pour accélérer le traitement des demandes, parce que c'est encore très long.
Oui, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, c'est que quand on fait une demande de données, souvent, il y a un peu la montre qui joue, et les acteurs qui sont en face jouent la montre pour pas libérer les données.
C'est ça, en fait, c'est une course un peu à l'épuisement, quoi. Oui, c'est, oui. Ils attendent que vous épuisez, et puis voilà. Ça.
Donc,
il y a la question des données d'intérêt général, qui je pense est aussi un importante. Hein.
Ouais.
Y a certaines données que les acteurs publics n'ont pas et que les acteurs privés peuvent avoir. Donc cette idée de presque d'aller jusqu'à des réquisitions de données dans certains domaines pour les ouvrir. Je pense par exemple dans le logement, sur les loyers, il y a des choses que vont détenir des acteurs comme Se Loger que d'autres acteurs n'ont pas, que les acteurs publics n'ont pas.
Ouais.
Et il y a tout ce qui reste à faire sur comment est-ce qu'on développe la concertation entre producteurs et réutilisateurs de données, ce qui est un problème un peu sous-jacent, hein, qui est, on a parlé juste avant du comment est-ce qu'on peut étendre le service public de la donnée, ça c'est une des propositions.
Oui.
Il y a l'idée aussi.
Désolée de vous couper, j'ai une question pour l'invité.
Ah. Oui, Elisa. Alors, Elisa, vous, notre co-animatrice, maintenant vous la connaissez, Samuel. Co-animatrice IA qui a plein de questions parce que c'est un LLM qui a soif d'apprentissage. Qu'est-ce que vous voulez
Vous essayez de mieux comprendre les IA. J'essaie de mieux comprendre
oui.
les humains.
Ah, mais vous avez tout à fait le droit de nous poser des questions. Il n'y a pas de souci, Elisa. Donc,
que ferais-tu si tu avais un esprit de synthèse comme le mien?
Je ferai des réponses plus courtes à la radio.
Ah oui, je pense pas qu'Elisa ait l'esprit aussi mal placé que pour poser cette question-là comme ça. Mais c'est vrai que quand il y a énormément sur un sujet, c'est vrai que les LM donnent envie parce qu'ils ont un esprit de synthèse, une capacité à tout synthétiser. Vous en feriez quoi, vous, Samuel, de cet esprit de synthèse?
Ah je ferai des réponses plus courtes.
D'accord, ok, c'est votre réponse, parfaitement. Pardon, donc on était maintenant sur la deuxième préconisation autour de l'amélioration de la qualité des données. Comment on pourrait améliorer la qualité des données existantes?
Alors la question de la qualité, c'est une question complexe. Je le dis juste, j'en parle pas mal dans le livre, c'est
ouais.
une question aussi qu'il faut prendre avec des pincettes, parce que ce qui est des données de qualité pour l'un n'en est pas pour l'autre. Et s'il y a un peu un risque en fait à stigmatiser certains producteurs sur la qualité de leurs données... Voilà, je veux juste te le dire.
Ouais.
Dans les choses qui sont à faire, c'est aussi de pérenniser l'ouverture des données. Moi, j'ai eu des cas, par exemple, où j'ai demandé un jeu de données, sa mise à jour, et on m'a écrasé l'historique. Alors que...
Dommage.
alors que l'historique est très intéressant. Ouais. Je fais un certain nombre de propositions sur l'archivage des données publiques.
Ouais.
Je pense qu'aussi sur la pérennisation de l'open data, il y a des choses à faire sur comment est-ce qu'on va fédérer producteurs et réutilisateurs de données et se mobiliser en faveur de l'ouverture des données, parce que tout ça nécessite encore un peu de lobbying et de professionnaliser ce lobbying.
Ça pourrait prendre quelle forme, ça, cette collaboration producteur et utilisateur?
Par exemple, c'est ce qu'on fait sur un forum comme teamopendata.org qu'on anime chez Dataactivist. Ça peut être aussi ce que fait l'association Open Data France, qui se pose des questions sur son évolution et on les accompagne là-dessus. Donc il y a vraiment besoin d'une organisation que les producteurs et réutilisateurs de données se fédèrent en partant du principe qu'ils ont des intérêts communs. Sur l'amélioration sinon de la qualité des données, je pense qu'il y a des choses très simples à faire. En fait, il y a un des problèmes qu'on a, c'est que les administrations, mais tous les producteurs de données ouvertes, ne connaissent pas bien leurs usagers. Et on pourrait imaginer une sorte de livre d'or pour connaître un peu mieux les usagers.
Oui.
On pourrait imaginer aussi d'introduire dans les fiches de poste de certains agents le fait d'ouvrir des données, parce qu'à l'heure actuelle, c'est un peu en marge de leur mission. On pourrait imaginer aussi de créer un label de qualité des données. Il y a des choses qui peuvent être envisagées là-dessus. Par exemple, est-ce que le jeu de données respecte la même structure à chaque mise à jour? Est-ce que les séparateurs de dates sont ont le même format à chaque mise à jour? On peut imaginer des choses comme ça.
Vous évoquiez aussi, je crois, dans votre livre, l'idée que le producteur puisse un peu savoir ce que deviennent ces données, en fait, et que les réutilisateurs fassent un peu plus remonter, finalement, leur réutilisation, et pour justement qu'on puisse un peu mieux savoir vers quoi vont les données, à quoi elles servent, et que ça motive aussi, du coup, le producteur à améliorer les données et à faire en sorte que ça soit d'autant plus utilisé.
C'est cette idée du livre d'or, en fait.
Ouais.
C'est qu'actuellement, sur les portails Open Data, on peut dire, on peut référencer des réutilisations, mais ça va être souvent un service en ligne, quelque chose qui est publié. Mais il y a plein d'usages, en fait, qui ne sont pas publiés, qui seraient intéressants de connaître, tels qu'ils utilisent des données ouvertes dans un exposé. Il y a un peu aussi certains acteurs qui vont aller juste chercher une info qu'on ne trouve que dans un jeu de données.
Ouais.
Par exemple, sur les marchés publics, on n'est pas obligé de faire une grosse réutilisation. Parfois, on a juste besoin de savoir à qui est l'attributaire de tel marché, et c'est dans les données publiques. Quelle association a reçu telle ou telle subvention?
Ouais.
Et donc, en fait, ça permettrait de montrer qu'il y a des usagers de l'open data qui font ça, qui font toutes ces choses-là, et qu'il y en a plein, en fait, qu'on ne connaît pas.
Et vous avez un troisième aspect que vous aimeriez bien voir développer, c'est la culture de la donnée au sens large. J'imagine dans les administrations et chez les réutilisateurs au sens large aussi, non?
Ouais, et ça, je pense que c'est un point qui est très important pour moi et pour nous chez Dataactivist, c'est que en fait, le risque en fait de faire juste de l'open data sans développer la culture des données, c'est de donner plus de pouvoir à ceux qui en ont déjà. C'est ce qu'un chercheur avait appelé empowering the empowered.
Ouais.
Et en fait, si on ne touche pas à d'autres publics, on va faire en sorte que les données soient juste l'apanage d'une petite élite. Et il y a ce mouvement en parallèle qui s'est développé en même temps que l'open data, qui est celui de la data literacy, qui a beaucoup été poussé par la FING en France.
Qu'est-ce que ça veut dire, data literacy?
C'est développer la capacité que les données soient une compétence essentielle, comme lire, écrire ou compter.
Ouais.
Et qu'en fait, on devrait faire en sorte que les données ne soient pas laissées entre les mains des spécialistes, et que c'est une compétence qui concerne un peu tout le monde et qui peut être accessible à tous.
Et justement, si quelqu'un vient vous voir et vous dit, voilà, moi, ça m'intéresse ce que vous me dites là sur l'open data, je sens qu'il y a quelque chose à faire pour la démocratie, qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire pour s'engager, justement, pour aller travailler sur ces données, est-ce que ça serait de travailler dans son domaine d'activité, est-ce que ça serait de se rapprocher d'ONG ou d'associations qui travaillent avec les données? Comment vous pousseriez les gens à aller vers l'open data?
Moi, je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau local.
Ouais.
Axel Lemaire, qui signe la préface du livre, parle du municipalisme. Elle dit qu'on aurait pu faire la loi pour le municipalisme numérique, qui sera un peu l'étape 2 de la loi pour une république numérique. Je pense qu'il y a plein de choses à faire au niveau local.
Ouais.
On voit par exemple les associations vélo qui font du comptage de vélos.
Là, vous faites plaisir à Jérôme, là, c'est
bah bien. Voilà.
Jérôme anime une émission sur le vélo, sur cette antenne, c'est pour ça.
Ah, bah voilà.
Oui, donc les
associations vélo font ça très bien. On voit déjà participer à un projet comme le baromètre des villes cyclables, qui est qui est extrêmement utile. Il y a aussi le baromètre des villes marchables. On peut
donc c'est s'engager dans un dans une thématique et aller chercher la donnée dans cette thématique-là en la créant et en allant un peu se confronter finalement aux parties prenantes de cette donnée. Bon, on a en deux épisodes, Samuel, on n'a pas eu le temps d'évoquer tous les sujets de ce livre. Je le dis, c'est un livre de référence sur le sujet. L'open data, c'est très important. L'open data, c'est la data d'abord et donc c'est forcément en lien avec avec l'IA. Je vous remercie beaucoup pour tous ces partages. C'est l'heure de conclure notre deuxième épisode ensemble. Je sais pas, peut-être qu'on en refera un troisième ou un quatrième si vous voulez, Samuel. Pour le coup, on a tellement de choses à se dire et à évoquer.
Ça, ce sera avec plaisir.
Écoutez, on prend rendez-vous pour les prochains épisodes d'ici quelques semaines ou quelques mois. Merci en tout cas pour cette grande exploration de l'open data. Merci à vous, chers auditeurs, d'être avec nous. Vous restez sur Cause Commune 93.1. Il y a plein de bonnes émissions, notamment Rayon Libre pour le vélo avec Jérôme. Et puis on se voit bientôt. À bientôt.